Chapitre 16, où Catherine fait, à son tour, de la diplomatie, le miel et l'absinthe. Le père Clovis eut son fusil, et puis tout était un garçon d'honneur. Pour lui, la chose promise était une chose due. 10 visites pareilles à la première firent depuis tout un parfait grenadier. Malheureusement, le père Louis n'était pas si fort sur la manœuvre que sur l'exercice. Lorsqu'il eut expliqué le tour, le demi-tour et les conversions, il se trouva au bout de sa science. Pitou eut alors recours aux praticiens français et aux manuels du garde national qui venait de paraître et auquel il consacra la somme d'un écu. Grâce aux généreux sacrifices de son commandant, le bataillon d'Aramon apprit à se mouvoir assez agréablement sur un terrain de manœuvre. Puis, lorsque Pitou sentit que les mouvements se compliquaient, il fit un voyage à Soissons, ville de garnison militaire. Il vit alors manœuvrer de vrais bataillons conduits par de vrais officiers, et il en apprit là en un jour plus qu'il n'eût fait en 2 mois avec les théories. 2 mois avaient passé ainsi, 2 mois de travail, de fatigue et de fièvre. Pitou ambitieux, Pitou amoureux, Pitou malheureux en amour, et cependant, faible compensation, saturé de gloire, Pitou avait rudement secoué ce que certains physiologistes appellent spirituellement la bête. La bête, chez Pitou, avait été impitoyablement sacrifiée à l'âme. Cet homme avait tant couru, il avait tant remué ses membres, tant aiguisé sa pensée, que l'on s'étonnait qu'il n'eût songé encore à satisfaire ou à consoler son cœur. Il en était ainsi, cependant. Combien de fois, après l'exercice, et l'exercice presque toujours venait lui-même à la suite du travail nocturne, combien de fois Pitou ne s'était-il pas laissé aller à traverser les plaines de Largny et de Noue dans toute leur longueur, puis la forêt dans toute son épaisseur, pour aller sur la lisière des terres de Boursonne guetter Catherine, toujours fidèle à ses rendez-vous. Catherine, qui, dérobant 1 ou 2 heures par jour aux travaux de la maison, allait joindre à un petit pavillon situé au milieu d'une garenne dépendant du château de Boursonne, le bien-aimé Isidore, cet heureux mortel, toujours plus fier, toujours plus beau, quand tout souffrait et s'abaissait autour de lui. Que d'angoisse il dévora le pauvre Pitou, quelle triste réflexion il fut réduit à faire sur l'inégalité des hommes en matière de félicité. Lui que recherchaient les filles d'Aramon, de Taillefontaine et de Vivier, lui qui eut aussi trouvé ses rendez-vous dans la forêt, et qui, au lieu de se pavaner comme un amant heureux, aimait mieux venir pleurer comme un enfant battu devant cette porte fermée du pavillon de Monsieur Isidore. Mais c'est que Pitou aimait Catherine, qu'il l'aimait passionnément, qu'il l'aimait d'autant plus qu'il la trouvait supérieure à lui. Il ne réfléchissait même plus à cela qu'elle en aimait un autre. Non, pour lui, Isidore avait cessé d'être un objet de jalousie. Isidore était un seigneur, Isidore était beau, Isidore était digne d'être aimé. Mais Catherine, une fille du peuple, aurait dû peut-être ne pas déshonorer sa famille, ou tout au moins, elle eût dû ne pas désespérer Pitou. C'est que lorsqu'il réfléchissait, la réflexion avait des pointes bien aiguës, des lancinations bien cruelles. « Quoi ?» se disait Pitou. « Elle l'a manqué de cœur au point de me laisser partir, et depuis que je suis parti, elle n'a même pas daigné s'informer si j'étais mort de faim. Que dirait le père Billot s'il savait qu'on abandonne ainsi ses amis, qu'on néglige ainsi ses affaires? Que dirait-il s'il savait qu'au lieu d'aller veiller au travail des ouvriers, l'intendante de la maison s'en va faire l'amour avec monsieur de Charny, un aristocrate? Le père Billot ne dirait rien, il tuerait Catherine. » C'est pourtant bien quelque chose, songeait en lui-même Pitou, que d'avoir entre les mains la facilité d'une pareille vengeance. Oui, mais c'était beau de ne pas s'en servir. Toutefois, Pitou l'avait éprouvé déjà, les belles actions méconnues ne bénéficient pas à ceux qui les ont faites. Ne serait-il donc pas possible de faire savoir à Catherine que l'on faisait de si belles actions? Mon Dieu, rien n'était plus aisé. Il ne s'agissait que d'aborder Catherine un jour de dimanche à la danse et de lui dire, comme par hasard, un de ces mots terribles qui révèlent aux coupables qu'un tiers a pénétré leur secret. Ne fût-ce que pour voir souffrir un peu cette orgueilleuse, la chose n'était-elle pas à faire? Mais pour aller à la danse, il fallait encore se montrer en parallèle avec ce beau seigneur, et ce n'est pas une position acceptable pour un rival que ce parallèle avec un homme si bien mis. Et puis tout, inventif comme tous ceux qui savent concentrer leur chagrin, trouva mieux que la conversation à la danse. Le pavillon dans lequel avait lieu le rendez-vous de Catherine avec le vicomte de Charny était entouré d'un épais taillis attenant à la forêt de Villers-Cotterêts. Un simple fossé indiquait la limite existant entre la propriété du comte et la propriété du simple particulier. Catherine, qui était appelée à chaque instant pour les affaires de la ferme dans les villages environnants, Catherine qui, pour arriver à ces villages, devait nécessairement traverser la forêt, Catherine à laquelle on n'avait rien à dire tant qu'elle était dans cette forêt, n'avait donc qu'à franchir le fossé pour être dans les bois de son amant. Ce point était certainement choisi comme le plus avantageux aux dénégations. Le pavillon dominait si bien le taillis que par les percées obliques garnies de verres de couleur, on pouvait distinguer chaque chose alentour, et la sortie de ce pavillon était si bien cachée par le taillis qu'une personne qui en sortait à cheval pouvait, en trois élans de son cheval, se trouver dans la forêt, c'est-à-dire sur un terrain neutre. Mais Pitou était venu si souvent, de jour et de nuit, Pitou avait si bien étudié le terrain qu'il savait l'endroit par où débouchait Catherine, comme le braconnier sait la passée par où bondit la biche qu'il veut tuer à l'affût. Jamais Catherine ne rentrait dans la forêt suivie d'Isidore. Isidore demeurait quelque temps après elle dans le pavillon pour veiller à ce que rien ne lui arrivât en sortant, puis il s'en allait du côté opposé et tout était dit. Le jour que Pitou choisit pour sa démonstration, il alla s'embusquer à la passée de Catherine. Il monta sur un hêtre énorme qui dominait de ses 300 ans le pavillon et le taillis. Une heure ne se passa point sans qu'il vît passer Catherine. Elle attacha son cheval dans un ravin de la forêt et, d'un bond, comme une biche effarouchée, traversa le fossé et s'enfonça dans le taillis qui menait au pavillon. C'était juste au-dessous du hêtre où était branché Pitou que Catherine avait passé. Pitou n'eut qu'à descendre de sa branche et s'adosser au tronc de l'arbre. Arrivé là, il tira un livre de sa poche, le parfait garde national, qu'il fit semblant de lire. Une heure après, le bruit d'une porte qu'on referme parvint à l'oreille de Pitou. Le froissement d'une robe dans le feuillage se fit entendre. La tête de Catherine apparut hors des ramées, regardant d'un air effrayé autour d'elle si personne ne pouvait la voir. Pitou restait immobile et tenait son livre sur ses mains. Seulement, il ne faisait plus semblant de lire et il regardait Catherine avec l'intention que Catherine vit bien qu'il la regardait. Catherine poussa un petit cri étouffé, reconnut Pitou, devint pâle comme si la mort eût passé près d'elle et l'eût touché, et, après une courte indécision qui se trahit dans le tremblement de ses mains et le demi-élan de ses épaules, elle se jeta à corps perdu dans la forêt et retrouva dans la forêt son cheval sur lequel elle s'enfuit. Le piège de Pitou avait bien joué et Catherine s'y était prise. Et Pitou revint à Aramon, à moitié heureux, à moitié effrayé. Car à peine se fut-il rendu compte, par le fait de ce qu'il venait d'accomplir, qu'il s'aperçut dans cette simple démarche une quantité d'effrayants détails auxquels, d'abord, il n'avait pas songé. Le dimanche suivant était désigné à Aramon pour une solennité militaire. Suffisamment instruit, ou s'étant déclaré tel, les gardes nationaux du village avaient prié leur commandant de les assembler et de leur faire faire un exercice public. Quelques villages voisins, émus de rivalité et qui avaient aussi fait des études militaires, devaient venir à Aramon pour rétablir une sorte de lutte avec leurs aînés dans la carrière des armes. Une députation de chacun de ces villages s'était entendue avec l'état-major de Pitou, un laboureur, ancien sergent, les commandait. L'annonce d'un si beau spectacle fit accourir une quantité de curieux endimanchés et le champ de Mars d'Aramon fut envahi dès le matin par une foule de jeunes filles et d'enfants auxquels se joignirent plus lentement, mais non avec moins d'intérêt, les pères et les mères des champions. Ce furent d'abord des collations sur l'herbe, frugales débauches de fruits et de galettes arrosées par l'eau de source. Bientôt après, quatre tambours retentirent dans quatre directions différentes, venant de Largny, de Vais, de Taillefontaine et de Viviers. Aramon était devenu un centre, il avait ses quatre points cardinaux. Le cinquième battait bravement, conduisant hors d'Aramon ses 33 gardes nationaux. On remarquait parmi les spectateurs une partie de l'aristocratie nobiliaire et bourgeoise de Villers-Cotterêts qui était venue là pour rire. En outre, un grand nombre de fermiers des environs qui étaient venus là pour voir. Bientôt arrivèrent sur deux chevaux, côte à côte, Catherine et la mère Billot. C'était le moment où la garde nationale d'Aramon débouchait du village avec un fifre, un tambour et son commandant, Pitou, monté sur un grand cheval blanc qu'avait prêté à Pitou Maniquet, son lieutenant, afin que l'imitation de Paris fût parfaite et que monsieur le marquis de Lafayette fût représenté ad vivum à Aramon. Mais Pitou, étincelant d'orgueil et d'aplomb, chevauchait l'épée à la main sur ce large cheval au crin doré, et sans ironie, il représentait, sinon quelque chose d'élégant et d'aristocratique, du moins quelque chose de robuste et de vaillant qui faisait plaisir à voir. Cette entrée triomphale de Pitou et de ses hommes, c'est-à-dire de ceux qui avaient donné le branle à la province, fut saluée par de joyeuses acclamations. La garde nationale à Aramon avait des chapeaux tous pareils, tous ornés de la cocarde nationale, des fusils reluisants et marchaient sur deux fils avec un ensemble des plus satisfaisants. Aussi, lorsqu'elle arriva sur le champ de manœuvre, elle avait déjà conquis tous les suffrages de l'assemblée. Et Pitou, du coin de l'œil, aperçut Catherine. Il rougit, elle pâlit. La revue de ce moment eut pour lui plus d'intérêt que pour tout le monde. Il fit faire à ses hommes le simple exercice du fusil d'abord, et chacun des mouvements qu'il leur donna fut si précisément exécuté que l'air éclata de bravo. Mais il n'en fut pas de même des autres villages, ils se montrèrent mous et irréguliers. Les uns à moitié armés, à moitié instruits, se sentaient déjà démoralisés par la comparaison. Les autres exagéraient avec orgueil ce qu'ils savaient si bien la veille. Tous ne donnèrent que des résultats imparfaits. Mais de l'exercice, on allait passer à la manœuvre, c'était là que le sergent attendait son émule Pitou. Le sergent avait, vu l'ancienneté, reçu le commandement général, et il s'agissait tout simplement pour lui de faire marcher et manœuvrer les 170 hommes de l'armée générale. Il n'en put venir à bout. Et Pitou, son épée sous le bras et son fidèle casque sur la tête, regardait faire avec le sourire de l'homme supérieur. Quand le sergent eut vu cette tête de colonne aller se perdre dans les arbres de la forêt, tandis que les queues reprenaient le chemin d'Aramon, quand il eut vu ses carrés se disperser à des distances erronées, quand il eut vu se mêler disgracieusement les escouades et s'égarer les chefs de file, il perdit la tête et fut salué d'un murmure désapprobateur par ses 20 soldats. Un cri retentit alors du côté d'Aramon. « Pitou ! Pitou ! Pitou ! » « Oui, oui, Pitou !» crièrent les hommes des autres villages, furieux d'une infériorité qu'ils attribuaient charitablement à leurs instructeurs. Et Pitou remonta sur son cheval blanc et, se replaçant à la tête de ses hommes, auxquels il fit prendre la tête de l'armée, il fit entendre un commandement d'une telle énergie et d'un cru si superbe que les chaînes en frissonnèrent. À l'instant même, et comme par miracle, les fils ébranlés se rétablirent. Les mouvements ordonnés s'exécutèrent avec un ensemble dont l'enthousiasme ne troublait pas la régularité. Et Pitou appliqua si heureusement à la pratique les leçons du père Clouis et la théorie du parfait garde national qu'il obtint un succès immense. L'armée, réunie dans un seul cœur et éclatant par une seule voix, le nomma Imperator sur le champ de bataille. Pitou descendit de son cheval, baigné de sueur et ivre d'orgueil, et, ayant touché le sol, il reçut les félicitations des peuples. Mais, en même temps, il cherchait, au milieu de la foule, à rencontrer les regards de Catherine. Et tout à coup, la voix de la jeune fille retentit à son oreille. Pitou n'avait pas eu besoin d'aller à Catherine. Catherine était venue à lui. Le triomphe était grand. « Et quoi ? » dit-elle d'un air riant que démentait son pâle visage. « Quoi, monsieur Ange, vous ne nous dites rien à nous ? Vous êtes devenu fier parce que vous êtes un grand général. »« Oh non !» s'écria Pitou. « Oh, bonjour, mademoiselle !» Et puis à madame Billot, « J'ai l'honneur de vous saluer, madame Billot. » Et revenant à Catherine, mademoiselle, vous vous trompez, je ne suis pas un grand général, je ne suis qu'un pauvre garçon animé du désir de servir ma patrie. Ce mot fut porté sur les ondes de la foule et au milieu d'une tempête d'acclamations, déclaré un mot sublime. Ange, dit tout bas Catherine, il faut que je vous parle. Ah, pensa Pitou, nous y voilà. Puis tout haut, à vos ordres, mademoiselle Catherine. Revenez tantôt avec nous à la ferme. Bien. Catherine s'était arrangée de façon à être seule avec Pitou, malgré la présence de la mère. La bonne madame Billot avait trouvé quelques complaisantes compagnes qui suivirent son cheval en soutenant la conversation, et Catherine, qui avait abandonné sa monture à l'une d'entre elles, revint à pied par les bois avec Pitou, qui s'était dérobé à ses triomphes. Ces sortes d'arrangements n'étonnent personne à la campagne, où tous les secrets perdent de leur importance à cause de l'indulgence qu'on s'accorde mutuellement. On trouva naturel que Pitou eût à causer avec madame et mademoiselle Billot, peut-être même ne s'en aperçut-on pas. Ce jour-là, chacun avait son intérêt au silence et à l'épaisseur des ombres. Tout ce qui est gloire ou bonheur s'abrite sous les chaînes séculaires dans les pays de forêt. Me voici, mademoiselle Catherine, dit Pitou quand ils furent isolés. Pourquoi avez-vous si longtemps disparu de la ferme, dit Catherine. C'est mal, monsieur Pitou. Mademoiselle, répliqua Pitou étonné, vous savez bien. Je ne sais rien, c'est mal. Pitou pinça ses lèvres. Il lui répugnait de voir mentir Catherine. Elle s'en aperçut. D'ailleurs, le regard de Pitou était d'ordinaire droit et loyal. Il biaisait. Tenez, dit-elle, monsieur Pitou, j'ai autre chose à vous dire. Ah, fit-il, l'autre jour, dans la chaumière où vous m'avez vu. Où vous ai-je vu? Vous savez bien. Je sais. Elle rougit. Que faisiez-vous là? Demanda-t-elle. Vous m'avez donc reconnue? Fit-il avec un doux et mélancolique reproche. D'abord non, mais ensuite oui. Comment cela, ensuite? Mais quelquefois, on est distraite, on va sans savoir, et puis on réfléchit. Assurément. Elle retomba dans le silence. Lui aussi. L'un et l'autre avaient trop de choses à penser pour parler si net. Enfin, reprit Catherine, c'était vous? Oui, mademoiselle. Que faisiez-vous là? N'étiez-vous pas cachée? Cachée? Non, pourquoi? Eussé-je été cachée? Oh, la curiosité! Mademoiselle, je ne suis pas curieux. Elle frappa impatiemment la terre de son petit pied. Toujours est-il que vous étiez là et que ce n'est pas un endroit ordinaire pour vous. Mademoiselle, vous avez vu que je lisais. Je ne sais. Mais puisque vous m'avez vu, vous devez savoir. Je vous ai vu, c'est vrai, mais vaguement. Et vous lisiez Le parfait garde national. Qu'est-ce que c'est que cela? Un livre avec lequel j'apprends la tactique pour la montrer ensuite à mes hommes. Et pour bien étudier, vous savez, mademoiselle, il faut se mettre à l'écart. Au fait, c'est vrai, et là, sur la lisière de la forêt, rien ne vous trouble. Rien. Autre silence. La mère Billot et les commères allaient toujours. Quand vous étudiez ainsi, reprit Catherine, étudiez-vous longtemps? Ou quelquefois des journées entières, mademoiselle. Alors, s'écria-t-elle vivement, il y avait longtemps que vous étiez là? Très longtemps. C'est étonnant que je ne vous aie pas vu quand je suis arrivée, dit-elle. Ici, elle mentait, et si audacieusement que Pitou eut la velléité de l'en convaincre, mais il était honteux pour elle, il était amoureux, timide par conséquent. Tous ses défauts lui valurent une qualité, la circonspection. Oh, j'aurais dormi, dit-il, cela arrive quelquefois quand on a trop travaillé la tête. Voilà, et pendant ce sommeil que vous avez eu, moi j'ai passé dans le bois pour avoir de l'ombre. J'allais jusqu'au vieux mur du pavillon. Ah, fit Pitou, du pavillon, quel pavillon? Catherine rougit encore. C'était trop affecté cette fois pour qu'elle l'y crût. Le pavillon de Charny, dit-elle, en affectant aussi la tranquillité. C'est là que pousse la meilleure joubarbe du pays. Ouida. Je m'étais brûlé à la lessive et j'avais besoin de feuilles de joubarbe. Ange, comme s'il eût cherché à croire le malheureux, jeta un regard sur les mains de Catherine. Pas aux mains, aux pieds, dit-elle vivement. Et vous en avez trouvé? D'excellentes, je ne boite pas, regardez. Elle boitait encore bien moins, pensa Pitou, quand je l'ai vue s'enfuyant plus vite qu'un chevreuil sur les bruyères. Catherine se figura qu'elle l'avait réussi. Elle se figura que Pitou n'avait rien su, rien vu. Cédant à un mouvement de joie, un mauvais mouvement pour une si belle âme, ainsi dit-elle, Monsieur Pitou nous boudait. Monsieur Pitou est fier de sa nouvelle position. Monsieur Pitou dédaignait les pauvres paysans depuis qu'il est officier. Pitou se sentit blessé. Un si grand sacrifice, même dissimulé, exige presque toujours d'être récompensé, et comme au contraire Catherine semblait mystifier Pitou, comme elle le raillait, par comparaison sans doute avec Isidore de Charny, toutes les bonnes dispositions de Pitou s'évanouirent. L'amour-propre est une vipère endormie sur laquelle il n'est jamais prudent de marcher, à moins qu'on ne l'écrase d'un coup. « Mademoiselle, répliqua-t-il, il me semble que c'était bien plutôt vous qui me boudiez. »« Comment cela ? D'abord, vous m'avez chassé de la ferme en me refusant de l'ouvrage. »« Oh, je n'en ai rien dit à Monsieur Billot, Dieu merci. J'ai des bras et du cœur au service de mes besoins. »« Je vous assure, Monsieur Pitou, il suffit, mademoiselle, vous êtes la maîtresse chez vous, donc vous m'avez chassé. » Donc, puisque vous alliez au pavillon de Charny et que j'étais là et que vous m'avez vu, c'était à vous de me parler au lieu de vous enfouir comme un voleur de pommes. La vipère avait mordu. Catherine retomba du haut de sa tranquillité. M'enfouir, dit-elle, moi, je m'enfouillais. Comme si le feu était à la ferme, mademoiselle. Je n'ai pas eu le temps de fermer mon livre, que déjà vous aviez sauté sur ce pauvre cadet caché dans les feuilles et qui a dévoré toute l'écorce d'un frêne, un arbre perdu. Un arbre perdu, mais qu'est-ce que vous me dites là, monsieur Pitou, balbutia Catherine, qui commençait à sentir toute son assurance l'abandonner. C'est bien naturel, continua Pitou, tandis que vous cueillez la joubarbe, cadet broutait, et en une heure, un cheval broute diablement de choses. Catherine s'écria, en une heure? Il est impossible, madame, qu'un cheval dépouille un arbre comme celui-là, à moins d'une heure de coups de dents. Vous avez dû cueillir de la joubarbe pour autant de blessures qu'il s'en est fait à la place de la Bastille. C'est une fameuse plante en cataplasme. Catherine, toute pâle et désarçonnée, ne trouva plus un mot. Pitou se tut à son tour, il en avait assez dit. La mère Billot, arrêtée à un carrefour, allait prendre congé de ses compagnes. Pitou, au supplice, car il venait de faire une blessure dont il sentait la douleur, se balançait alternativement sur l'une et l'autre jambe, comme un oiseau qui va s'envoler. « Eh bien, que dit l'officier ? » cria la fermière. « Il dit qu'il va vous souhaiter le bonsoir, madame Billot. » « Pas encore. Restez, » dit Catherine, avec un accent presque désespéré. « Eh bien, bonsoir, » dit la fermière. « Viens-tu, Catherine ?»« Oh, dites-moi donc la vérité, » murmura la jeune fille. « Laquelle, mademoiselle ? Vous n'êtes donc pas mon amie ?» Hélas, fit le malheureux, qui, sans expérience encore, débutait dans l'amour par ce terrible emploi des confidents, rôle dont les habiles seuls savent tirer les bénéfices au détriment de leur amour-propre. Pitou sentit que son secret lui venait aux lèvres, il sentit que le premier mot de Catherine allait le mettre à sa merci, mais il sentit en même temps que c'était fait de lui s'il parlait. Il sentait qu'il mourrait de douleur le jour où Catherine lui annoncerait ce qu'il ne faisait que soupçonner. Cette appréhension le rendit muet comme un Romain. Il salua mademoiselle Catherine avec un respect qui perça le cœur de la jeune fille. Il salua madame Billot avec un gracieux sourire et disparut dans l'épaisseur du bois. Catherine, malgré elle, fit un bond comme pour le suivre. La mère Billot dit à sa fille « Ce garçon a du bon, il est savant et il a du cœur. » Demeuré seul, Pitou commença un long monologue sur ce thème. « Est-ce cela qu'on appelle l'amour, c'est bien doux à certains moments et bien amer dans d'autres. » Le pauvre garçon était si naïf et si bon qu'il ne réfléchissait pas qu'en amour il y a le miel et l'absinthe et que M. Isidore avait pris pour lui le miel. Catherine, à partir de ce moment où elle avait horriblement souffert, prit pour Pitou une sorte de crainte respectueuse qu'elle était bien loin d'avoir quelques jours auparavant pour cet inoffensif et grotesque personnage. Quand on n'inspire pas de l'amour, il n'est pas désobligeant d'inspirer un peu de crainte, et Pitou, qui avait de grands appétits de dignité personnelle, n'eût pas été médiocrement flatté en découvrant ce genre de sentiment chez Catherine. Mais comme il n'était point assez fort physiologiste pour deviner les idées d'une femme à 1 lieue et demie de distance, il se contenta de pleurer beaucoup et de se rabâcher à lui-même une foule de chansons villageoises lugubres sur les airs les plus mélancoliques. Son armée eût été bien désappointée en voyant son général livré à des jérémiades aussi élégiaques. Quand Pitou eut bien chanté, beaucoup pleuré, beaucoup marché, il rentra dans sa chambre, devant laquelle il trouva que les Armontois idolâtres avaient placé une sentinelle, l'arme au bras, pour lui faire honneur. La sentinelle n'avait plus l'arme au bras, tant elle était ivre, elle dormait sur le banc de pierre, son fusil entre les jambes. Pitou, étonné, la réveilla. Il apprit alors que les 33 bons hommes avaient commandé un festin chez le père Tellier, le Vatel d'Aramon, que 12 des plus délurés commères y couronnaient les vainqueurs et qu'on avait gardé la place d'honneur pour le Turenne qui avait battu le Condé du canton voisin. Le cœur avait trop fatigué chez Pitou pour que l'estomac n'en eût pas souffert. « On s'est étonné, dit Chateaubriand, de la quantité de larmes que contient l'œil d'un roi, mais on n'a jamais pu mesurer le vide que les larmes font dans un estomac d'adulte. » Pitou, traîné par son factionnaire à la salle du festin, fut reçu avec des acclamations à secouer les murailles. Il salua en silence, s'assit de même, et, avec le calme qu'on lui connaît, il attaqua les tranches de veau et la salade. Cela dura tout le temps que mit son cœur à se dégonfler et son estomac à se remplir.